ne sommes pas des terroristes. En tout cas, il ne faut pas l'être avec cette loi LOPSI 2 qui revient au Parlement actuellement, à suivre sur le site de l'Assemblée nationale. Une divergence numérique, c'est votre émission sur le libre, les logiciels libres. Et pour cette divergence numérique numéro 11 de cette saison 8, ou la 91e divergence numérique, on voit qu'on s'approche du numéro 100. Nous parlerons des initiatives en logiciel libre au Canada et en France. Après la revue de presse de l'april, les Québécois de CKIA donc feront le point sur des initiatives donc en logiciel libre au Canada et en France. Ils seront accompagnés de Sébastien Beaujard, libriste français, qui nous parlera donc des initiatives dans les institutions françaises comme la très célèbre association Adulacte. Gabriel Cosette, informaticien, coordinateur d'un groupe interministériel sur les logiciels libres, donc viendra donc parler des différentes initiatives reliées aux logiciels libres au sein du gouvernement du Canada. Donc revue de presse de l'april, donc dans ce sommaire. Ensuite, ce sera nos amis de la Voix du Libre. Bien sûr, vous l'aurez reconnu, l'émission mensuelle sur les logiciels libres qui est diffusée tous les premiers mercredis du mois de 20h à 22h, donc sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Donc présentation donc des projets et la manière dont les choses se font et leur avancée. Et puis ce sera l'agenda du libre. Le film musical sera donc québécois, vous l'aurez compris, avec différents artistes. Vous retrouvez tout ça sur l'article de l'émission sur divergence-fm.org, rubrique société, divergence numérique. Tous les liens. Et puis on va tout de suite passer aux nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Nouvelles du front avec la revue de presse de l'april, april.org de la semaine 49, en la personne d'Emmanuel Charpentier et de Luc Fievé.
Revue de presse de l'april, semaine 49. Bonjour Manu.
Bonjour Luc.
Donc aujourd'hui au sommaire, le point Jacquard. Plus d'éther pour les élèves, si, si. Donc, quand le Québec légifère, livre blanc public. Donc, pour commencer, un article du journal du Net, Green IT et Open Source, quel rapport ? Donc, c'est un article écrit par Antoine Crochet-Damet et qui fait un bilan d'une rencontre entre deux consultants indépendants, dit-il, Frédéric Bordage et François Letellier. Donc, le premier fait dans le Green IT, donc tout ce qui est informatique écologique, et le second est un consultant en logiciel libre. Et donc ils établissent des relations entre les deux domaines qui peuvent pas paraître nécessairement tout à fait en adéquation. Donc ils constatent que par le logiciel libre, il y a cette idée de ne pas réinventer ce qui existe déjà, de mutualiser le travail plutôt que de reconstruire ce qui a déjà été fait ailleurs, qui correspond pas mal au principe du développement durable. Il y a trois piliers dans le développement durable, et dont celui le pilier social et économique. Et là, on retrouve quelque chose qui est tout à fait dans cette idée-là. Ils notent également qu'il y a certains logiciels qui ont été développés, le logiciel libre notamment, pour gérer l'énergie, ce genre de choses. Il parle du projet HipHop for PHP. L'article dit ainsi que ça permet d'économiser à Facebook, de diviser par deux sa consommation électrique. Il note aussi que le logiciel libre, notamment les systèmes GNU Linux, permettent de tourner sur des machines plus vieilles, moins puissantes, et donc de les faire durer plus longtemps, et donc d'éviter le renouvellement. Un ordinateur, c'est une consommation d'énergie et de matières premières considérable, c'est tout petit, et pourtant ça bouffe énormément d'eau, énormément de matières premières, énormément d'énergie à construire. Donc Apache ne dansera plus la Java. Dans quoi s'agit-il ? C'est un article du MagIT. Java, la fondation Apache, démissionne officiellement du JCP. Un article par Cyril Chausson. Donc Apache, qu'est-ce que c'est ?
C'est le serveur web avant tout, mais c'est aussi la fondation Apache qui regroupe des centaines et des milliers de développeurs, et c'est un poids considérable dans la communauté libre. Alors eux, ils font peut-être un peu plus dans l'open source malheureusement, mais en tout cas c'est vraiment un gros truc. Et en l'occurrence, ils travaillent avec Oracle depuis un moment, enfin avec Oracle, avec Sun sur Java.
Ouais, donc JCP, c'est
Java Consortium Process.
Un truc équivalent, mais en tout cas, c'est l'organisation qui gère, qui permet à tous les gens qui bossent sur Java de contribuer au projet.
Et là, Apache était membre du comité exécutif. Il prenait les décisions aux côtés d'autres entreprises et de quelques individus. Et on sait qu'il y a des problèmes entre Oracle et la communauté du libre depuis qu'Oracle a racheté Sun et a racheté de fait de nombreux projets. il y a le projet Java qui est chapeauté par Oracle et GCP, et bien Apache, qui est un des gros piliers, qui travaille énormément dessus et qui travaille en accord avec les autres, et bien là, ils avaient eu des problèmes. Ils voulaient avoir l'obtention de licence pour le test kit, le kit de test qui permet de valider qu'une implémentation est bien compatible Java. Et bien, ils ne l'ont pas eu. Apache, on a refusé Apache ce kit de test. Bon, les raisons sont souvent... c'est simplement qu'on ne veut pas qu'il y ait d'implémentation concurrente qui soit mise en place. Hein, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Sachant que l'implémentation d'Apache est utilisée par Google. Et comme vous l'avez peut-être entendu ou vous rappelez, il y a plein de problèmes entre Oracle et Google, des problèmes de brevets, des problèmes de droits d'auteur. C'est que Google est sur une mine d'or avec Android et les autres la lorgnent d'un œil très jaloux. Et donc là, Apache se barre, tout simplement, comme ils avaient promis qu'ils le feraient, si jamais le kit de compatibilité ne leur était pas accordé. Et bien, c'est chose faite. Oracle a redemandé... S'il vous plaît, vous pouvez réintégrer le truc. Mais non, le truc, il est trop contrôlé par Oracle. Et nous, Apache, on n'a pas lieu d'y être encore aujourd'hui.
L'article précise quand même que du temps de Sun, il y avait déjà des tensions.
C'est pas nouveau. Hein. Le kit de compatibilité, il est demandé depuis super longtemps. Et ça fait super longtemps qu'il est refusé. Alors, Sun avait ouvert Java en GPL. Donc, ce qui est déjà une très très bonne nouvelle, mais le kit lui-même il restait dans sa main, dans sa propriétaire privatif, et aucune possibilité de l'avoir. Donc là, c'est pas nouveau.
Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, Apache ?
On va voir, ils vont continuer à faire leur implémentation de leur côté, mais c'est pas une implémentation qui passe le kit de compatibilité. Donc, elle est toujours très utile, elle va être utilisée par Google et Android, il n'y a pas de raison que ça change à court terme. À long terme, eh bien, depuis qu'IBM est parti de l'implémentation d'Apache, c'est là que ça va jouer. En fait, combien de développeurs ils ont pris avec eux, ils sont partis et ils ont rejoint Oracle, et donc le GCP continue, et a priori, je continue en force. On va voir, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, peut-être qu'Apache va réintégrer à un moment donné, peut-être que le kit va leur être accordé, après tout, ce n'est pas grand-chose, hein. C'est juste des batteries de test. Hein. Honnêtement, c'est purement un moyen de contrôler la marque Java. Livre blanc public, article WebTimes Media, livre blanc Télécom Valais, logiciel libre, mode d'emploi à télécharger. Donc de la rédaction qui présente le livre blanc dont on vous a parlé dans le passé, livre blanc qui avait été présenté à l'April, qui a été fait par un consortium du sud de la France, hein, de Sophie Antipolis, il me semble. Et donc ce livre blanc vient d'être dévoilé, et il semble des plus intéressants, et là l'article WebTimes Media en parle et présente les caractéristiques.
Ils expliquent pourquoi ils ont fait ce document, c'était pas juste par pur plaisir. Donc l'idée c'était de, en gros, répondre à toutes les questions qu'on leur pose depuis des années, enfin que cette commission de Sophie Antipolis doit faire face. Donc quels sont les différents modèles économiques du libre, quels sont les vecteurs de la création de valeur, quelle approche juridique concernant les licences, existe-t-il des risques associés, comment les appréhender et sécuriser ces livrables, comment créer et animer une communauté open source, ce genre de choses. Donc toute une série de questions qui reviennent très régulièrement, et donc du coup, voilà, ils ont produit ce livre, livre blanc qui revient là-dessus. Jean-Christophe Becquet, qui est un de nos vice-présidents, donc est intervenu, il est cité dans l'article, au niveau de la remise de ce livre blanc, donc il souligne que ça vient compléter ce qui a déjà été fait, que c'est une très bonne chose pour ça. Et il a également... un commentaire intéressant par rapport à la dimension économique de la chose, en soulignant que le marché des licences propriétaires, donc du logiciel propriétaire, c'est en France 10 milliards d'euros. Donc c'est de l'économie et de la macroéconomie, c'est en ça que c'est intéressant, on n'est pas juste à compter des petits sous chacun dans son coin. Il remarque que c'est un marché d'importation majoritairement, hein, 80% de ces 10 milliards partent hors d'Europe, ça fait 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, avec ça, bah, on peut créer pas mal d'emplois, surtout quand on sait que bah, sur ces 8 milliards, il y en a un paquet sur lequel il y a très peu d'impôts payés, puisque nombreuses sociétés font transiter leurs revenus par l'Irlande où elles déclarent leurs revenus, etc., et payent très peu d'impôts là-bas. Donc c'est quand même un manque à gagner important et des emplois en moins. Donc c'est une forme de délocalisation. Et donc le logiciel libre est une forme, une arme anti-délocalisation. Donc quand le Québec légifère, un article de Rue Frontenac, projet de loi, Québec ouvre la porte au logiciel libre. Il y a un article de Jean-François Coderre. On en avait parlé la semaine dernière, il y avait une annonce qui avait été faite sur le sujet, qui était assez mystérieuse, en tout cas pas très explicite. Donc il y a un projet de loi qui est sorti, hein, c'est le projet de loi 133. Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. Donc c'est un projet de loi qui ne parle pas que de logiciels libres, mais qui le mentionne très largement. Alors il y a une citation de la ministre qui est un peu décevante, parce qu'en soi elle ne veut pas dire grand-chose. Elle dit en substance que donc le cinquième objectif du gouvernement est d'encourager l'utilisation du logiciel libre lorsque ce logiciel s'avère être le meilleur choix. Donc, quand on a dit ça, on n'a à peu près rien dit, si ce n'est que on prend les logiciels libres s'ils sont meilleurs et qu'on les considère comme des logiciels tout courants.
Ah, je trouve que t'abuses. Non. C'est très bien. Ils encouragent le meilleur choix, ce qui veut peut-être dire qu'ils ont besoin de cet argument-là pour pouvoir mettre en avant le logiciel libre par rapport à votre truc propriétaire, tout simplement.
Bah, c'est vrai qu'à minima, ça, c'est une sorte d'aveu qu'avant... le logiciel libre était juste pas considéré. En tout cas, bon voilà. Mais il y a des choses plus intéressantes, notamment Cyril Béraud, donc, qui est le président de l'association professionnelle des entreprises en logiciel libre, donc du Québec, qui note que ce projet de loi marque une rupture parce qu'il prévoit d'avoir des interlocuteurs qui soient compétents techniquement au niveau du gouvernement.
Donc il s'agit là de nommer des personnes, donc c'est quelque chose d'un peu fort, d'un peu concret. Il y a un directeur principal de l'information en charge de la supervision de tous les projets informatiques gouvernementaux, notamment les réseaux de l'éducation et de la santé, qui ont l'air d'être des gouffres à pognon phénoménaux.
C'est la moitié de leur budget. Ouais.
Il y a un budget de 2,5 milliards hein, par année dans les projets informatiques, et effectivement 1,3 juste pour l'éducation et la santé, et qui n'ont pas forcément l'air d'être bien gérés, ça a l'air d'être un beau bordel, et ils veulent mettre en place deux dirigeants réseau de l'information qui pour aider ce nouveau directeur principal, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place plein de logiciels libres, des projets libres, et qui vont pouvoir peut-être même se mettre d'accord avec d'autres pays pour faire des trucs dans la santé et l'éducation notamment.
Alors moi ça me fait penser un peu à ce qui se passe en France, alors je... travaille au contact de collectivités territoriales sur des questions d'informatique. Et alors, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas, j'ai noté que cette absence de compétences techniques est assez fréquente et qu'on a souvent des fonctionnaires qui connaissent bien les procédures pour faire des appels d'offres et ce genre de choses, mais qui ne sont pas très pertinents sur les questions techniques. Donc voilà un exemple très intéressant qui vient du Québec. Alors, plus d'éther pour les élèves. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Manu ? Tu veux qu'ils se droguent, c'est ça ?
Non, rien à voir. C'est un article « Vounouil ». Etherpad, logiciel chouchou des enseignants, de Sandra Ktourza. Et donc, ça parle d'Etherpad, non ? Explique-moi, toi, un petit peu de quoi il s'agit.
Alors, Etherpad, c'est une application en ligne. On va juste sur une adresse web, on ouvre un pad, c'est-à-dire une zone dans laquelle on peut écrire. Et en fait, plusieurs personnes peuvent se connecter, écrire en même temps, chacun à sa couleur. Et on voit les autres personnes écrire en même temps que nous, dans le même espace. Il y a une petite zone de chat, un historique, etc. C'est très pratique pour rédiger des choses à plusieurs, comme des comptes rendus, ou voir autre chose.
Et là, c'est les professeurs qui veulent l'utiliser ou qui l'utilisent ?
Alors oui, il y a des professeurs qui... Enfin, des enseignants en primaire, collège, etc., qui l'utilisent, donc, notamment des profs de français, et qui font travailler leurs élèves là-dessus. Donc, ils écrivent ensemble dans un même espace. Et ça a des vertus pédagogiques intéressantes, notamment parce que c'est du travail collectif. Donc, je cite, « Écrire avec l'autre, c'est découvrir qu'on partage les mêmes difficultés et qu'on est complémentaires pour mieux réussir. » Donc, ça sort un petit peu du cadre traditionnel de l'école où chacun est dans son coin, et après ça, on peut faire le concours de celui qui a la plus grosse note. Il y a cette idée de travailler ensemble, de voir les difficultés, de voir comment chacun peut écrire.
Oui, j'ai l'article sous les yeux. Je vois que c'est aussi utilisé pour les cours de latin. J'ai des souvenirs douloureux de pages blanches qui semblent être partiellement résolues par cet outil collaboratif où là, chacun cède, chacun montre à l'autre comment faire la version latine, comment faire la traduction en temps réel, et on est moins bloqué. Ça me paraît des plus intéressants.
Voilà, on a aussi dans l'article une expérience pour des élèves handicapés qui est relatée.
Donc, sur le site Vounouil. Alors, Luc, le point Jacquard.
Alors, c'est pas une histoire de tricot, c'est un article sur Numérama. Donc, le généticien Albert Jacquard attaque le concept de propriété intellectuelle par Julien L. Il y a une vidéo sur l'article, et c'est la reprise d'une initiative de libre accès qui a montré un extrait de vidéo d'entretien, enfin de conférence de Richard Stallman, encore lui, où il attaque la notion de propriété intellectuelle. Où il explique qu'il y a toute une série de notions, de mots qui sont utilisés, où il suffit d'utiliser un mot opposé. Alors il donne piratage contre, et nous on va utiliser partage par exemple, en disant il va y avoir des mots connotés, mais qu'après ça il y a des mots comme propriété intellectuelle qui veulent juste rien dire et qu'on n'a pas de mots à opposer à ça, parce que c'est pas une déformation du langage et des sens, c'est juste l'invention d'un truc qui n'existe pas. Donc montrer à Albert Jacquard, qui apparaît sur la vidéo très fatigué, c'est un homme âgé, etc., mais qui a toute sa tête et qui démonte le concept de propriété intellectuelle, avec des exemples très intéressants, et notamment j'aime beaucoup celui de l'arc-en-ciel, où il dit qu'on peut tous voir un arc-en-ciel, le nommer arc-en-ciel, mais qu'au final, on parle de quelque chose qui n'existe pas, parce que l'arc-en-ciel en lui-même, on peut se poser des questions genre où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il finit, etc. Ça n'a aucun sens. L'arc-en-ciel n'existe pas en tant que lui-même. C'est pas parce qu'on l'a nommé arc-en-ciel qu'il existe.
Et donc dire c'est mon arc-en-ciel, c'est aussi idiot que de dire c'est mon idée. Mon idée, ça n'existe pas de manière aussi fixe. Et la valeur de l'idée, de toute manière, c'est dans le fait qu'elle est partagée. Donc allez voir la vidéo, c'est des plus intéressants. Ben, Luc, je te dis à la semaine prochaine.
Ben, à la semaine prochaine, et merci.
Merci Luc, merci Emmanuel pour cette semaine 49 revue de presse, donc de l'April, april.org, que vous retrouvez donc sur leur site, et aussi sur dogmatic.net April. Merci à vous qui nous écoutez dans cette divergence numérique numéro 91 sur les ondes du 93.9 de Divergence FM et sur Radio Escapade aussi également, donc sur le 103.3 et 104.1. Maintenant, place un petit peu à la musique avec nos amis du Libre, de la Voix du Libre québécoise. Maintenant, c'est à eux. Ils vont donc nous présenter les différentes initiatives du logiciel libre au sein du gouvernement canadien et aussi des initiatives en logiciel libre en France.
Comme à toutes les émissions, la nouvelle formule en tout cas, on est avec deux invités qui vont donc nous accompagner pendant toute l'émission. Donc à ma droite, Gabriel Cossette. Gabriel, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis également avec Sébastien Beauchard.
Beauchard, oui, c'est ça.
Beauchard, excuse-moi. Donc, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter aux auditeurs, puisque la semaine dernière, notre invité Martial nous a dit qu'on faisait mal les choses, puisqu'on ne présentait pas nos invités, et puis on les faisait parler au début de l'émission. Donc là, on va essayer de se corriger un petit peu. Donc, Gabriel, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs?
Bonsoir à tous, je m'appelle Gabriel Cossette et je travaille à Parc Canada, l'agence fédérale, depuis 7 ans. J'ai commencé en soutien technique et maintenant je travaille au niveau des services de portail d'accès à distance et de VPN. J'ai commencé à m'intéresser au libre en 2003 et maintenant au fédéral, je suis le coordonnateur, du groupe régional interministériel sur les logiciels libres au sein du Conseil fédéral du Québec en TI. Et on est maintenant 30 membres de 14 ministères et organismes fédéraux différents.
Donc, je pense que les auditeurs ont compris, c'est toi qui vas nous parler d'initiatives gouvernementales fédérales.
Exactement, oui.
Et donc, on imagine que Sébastien, il va nous parler un petit peu de ce qui se passe en France.
Voilà, c'est ça. Donc, Sébastien Beaujard, donc j'ai 24 ans. Avec mon accent, vous doutez que je suis français. Je suis arrivé au Québec cet été. Et passionné du libre depuis plusieurs années, je suis membre de l'April en France. J'ai aussi créé un petit GUL dans le nord-est de la France.
Sébastien, tu étais aussi un de nos auditeurs en France?
Ouais, c'est ça. J'écoutais les podcasts. J'ai découvert l'émission en France un peu par hasard et j'écoutais les podcasts à chaque mois.
Ok.
J'ai trouvé ça comique parce qu'une émission assez populaire en France qui est le Divergence numérique qui passe maintenant des extraits de La Voix du Libre, alors que nous, on passe des extraits de Divergence numérique.
Effectivement, partage de connaissances, d'informations. On va aller en musique, Mehdi. On va écouter donc de la musique qu'on trouve sur le site Jamendo. Donc, c'est de la musique libre. On va commencer tout de suite avec un groupe français folk. Thank you. Donc, on vient d'écouter donc un titre qui provient donc du site Jamendo qui s'appelle Jacko Jack. On enchaîne tout de suite avec nos deux invités sur notre thématique de ce soir qui s'appelle Initiative gouvernementale. Là, on s'intéresse au fédéral, donc au Canada et aussi en France. On devait initialement regarder un petit peu ce qui se faisait au niveau provincial, mais ils sont un petit peu frileux au gouvernement provincial. Il y en a pas beaucoup de personnes qui veulent venir parler au micro de ce qui se fait, malgré qu'il se fait quand même pas mal de choses. Moi, j'avais pris contact avec le ministère de la Culture qui avait fait une étude avec Révolution Linux autour du bureau libre. Malheureusement, je les ai peut-être contactés un petit peu tardivement, mais j'ai pas eu de retour d'appel. J'ai discuté avec la personne, il semblait être intéressé, donc peut-être j'aurai une entrevue que je pourrais diffuser sur notre podcast ou dans une émission future pour savoir ce qu'il en est sur le résultat de cette étude. En tout cas, nous, on a réussi à avoir deux invités avec nous ce soir, donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur eux. Donc, Gabriel, tout à l'heure, tu nous as dit que tu travaillais, toi, pour le gouvernement fédéral, c'est ça?
Oui, effectivement. Et dans le cadre de mon travail, je suis aussi coordonnateur d'une communauté de pratique interministérielle sur les logiciels libres qui est au sein du Conseil fédéral du Québec en technologie de l'information. Donc, juste un petit aperçu, c'est quoi le Conseil fédéral du Québec en TI? Ça, c'est un conseil fédéral composé de plusieurs gestionnaires en TI, de la grande majorité des ministères et agences fédérales qui ont une présence au Québec. C'était créé en 94, ce conseil-là, et son mandat, c'est vraiment de favoriser le réseautage et la communication entre les différents ministères et de mettre en commun différentes initiatives, différents projets, et également de coordonner des communautés de pratique, comme celle qu'on a créée il y a 2 ans pour les logiciels libres. Et comme je disais au début, maintenant, on est rendu, après 2 ans, à peu près une trentaine de membres qui proviennent de 14 ministères et organisations fédérales différentes. Et à vrai dire, les mandats de notre groupe de logiciels libres, donc, c'est vraiment de travailler sur la sensibilisation, donc d'arriver à sensibiliser les différents ministères sur les logiciels libres, aussi de démystifier tout l'aspect légal qui entoure les logiciels libres, parce qu'au niveau fédéral, c'était quand même, il y avait des grands questionnements à ce niveau-là, c'est qu'est-ce qui arrive si on contribue du code en tant qu'employé du fédéral, qu'est-ce qui arrive si on utilise des logiciels libres. Donc, nous, on est là pour démystifier cet aspect-là. Également, côté partager les bonnes pratiques de la mise en œuvre des logiciels libres et également favoriser, encourager qu'il y ait des politiques d'adoption de logiciels libres qui se fassent dans les différents ministères et également, bien entendu, d'évaluer les coûts et bénéfices des logiciels libres. Et juste pour vous dire, les activités qu'on fait de notre côté, c'est vraiment différentes réunions de partage qu'on fait soit physiquement à Montréal ou par vidéoconférence et on en fait à peu près une à tous les 2 mois. Et également, en ce moment, on a 2 projets en cours qui sont encourager le partage interministériel de logiciels, donc à vrai dire libérer des logiciels du fédéral en logiciels libres et également les partager entre ministères. Et également, on est en train de rédiger un guide de migration vers OpenOffice dans un contexte fédéral toujours.
Gabriel, avant de commencer à travailler là où tu travailles, tu t'intéressais quand même aux logiciels libres avant ou dans ton usage personnel, tu utilises des logiciels libres?
Oui, effectivement. Moi, quand je suis arrivé à Québec, à vrai dire, j'étais dans une PME qui utilisait exclusivement les logiciels libres et c'est vraiment ce qui m'a ouvert à ce beau monde génial en 2003.
Est-ce que tu as une distribution fétiche?
Oui, c'est Arch Linux, à vrai dire, qui est une distribution qui permet de toujours être à jour avec ses logiciels sous l'environnement Linux.
Merci, Gabriel, pour cette présentation. Sébastien, donc tout à l'heure, tu nous as dit que tu venais de France, ça fait quelques mois que tu es ici.
C'est ça.
Toi, ça fait longtemps que tu t'intéresses au logiciel libre,
alors,
en général?
Alors, le logiciel libre, ouais, ça fait quelques années. En fait, je suis tombé dedans tout bêtement en découvrant Wikipédia. En découvrant un jour que sur Wikipédia, il y avait une page pour mon petit village en France, je me suis dit, mais c'est complètement dingue, on est 45 habitants et ça existe.
45 habitants ?
Oui.
C'est vraiment un petit village.
J'ai dit petit village. Et j'étais vraiment étonné de voir que Wikipédia avait une page pour mon petit village et je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc ?
Tu t'es dit, au moins, il y a Internet dans mon village, il y a quelqu'un qui a réussi à écrire cette page.
C'est ça. Bon, après, je me suis rendu compte que c'était un robot qui avait créé la page, mais quand même, elle existait. Donc j'ai commencé à contribuer à Wikipédia sur la page de mon petit village et ensuite de fil en aiguille, bah, je me suis rendu compte que Wikipédia c'est libre, il y a une licence derrière, il y a une philosophie derrière. Wikipédia, c'est un site internet, une encyclopédie, c'est bien beau. Il y a aussi des logiciels qui sont faits sur ce modèle-là, qui sont libres. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans tout doucement. Côté distribution, moi je suis dans le classique, c'est Ubuntu dans sa dernière version.
Sinon en France, tu m'as dit aussi que t'étais membre d'une association qui s'appelle l'April.
C'est ça, membre de l'April, qu'on pourrait un peu comparer à Facile ici au Québec. Donc c'est une grande association en France, c'est une des plus connues dans le monde du logiciel libre en France. On en parlera dans les détails un peu plus tard, je crois. Et puis donc j'ai aussi participé à la création d'un GUL, donc un groupe d'utilisateurs de logiciels libres dans le nord-est de la France, dans mon département qui s'appelle les Vosges. Donc ça s'est fait cette année avant que je parte, et puis ça suit son cours tout doucement.
Ben merci Sébastien. Donc on va commencer dans le vif du sujet. Une première question pour essayer aux auditeurs, essayer d'expliquer la relation qui existe entre, par exemple, si on prend le Canada au départ avec les logiciels libres, est-ce qu'on en parle beaucoup aux médias? Est-ce que la population s'y intéresse? Est-ce qu'on a des chiffres un petit peu
Ben moi, à vrai dire, j'ai pas beaucoup de chiffres parce que à l'intérieur du fédéral, c'est pas beaucoup publicisé. Bon, l'utilisation qu'on en fait. Néanmoins, je peux dire qu'au fédéral, de notre côté, on est un grand utilisateur du libre, mais surtout dans le domaine scientifique. Donc, on utilise et on crée du libre dans le domaine scientifique, également du côté des serveurs d'applications. Mais de notre côté, à vrai dire, il y a une position officielle du gouvernement fédéral depuis 2003 qui a été publiée par le secrétariat du Conseil du Trésor, à vrai dire, qui permet l'utilisation du logiciel libre dans les différents ministères. Mais je dirais que le fédéral, depuis ce temps-là, il essaie d'évaluer beaucoup les meilleures manières d'approcher le libre, de ma vision du moins. Et par exemple, il a publié en 2009 une demande d'information publique qui était adressée à l'industrie concernant l'acquisition des logiciels libres. Donc, il voulait avoir, à vrai dire, un bon portrait de comment planifier, comment acquérir et utiliser des logiciels libres. Et il y a eu beaucoup de réponses de l'industrie à cette demande-là. Et il y a eu l'évaluation après ça de fait sur les différentes réponses et compiler ce qu'on pourrait mettre en ligne directrice, par exemple.
Est-ce que dans les médias, les journaux, est-ce que de temps en temps, il y a des articles qui sortent pour parler un petit peu de logiciels libres?
Oui, bien effectivement. Ben moi, c'est sûr que de notre côté, on est un groupe principalement au Québec. Donc, c'est sûr qu'on surveille beaucoup les actualités qui se passent au Québec. Puis, c'est certain que le fédéral a beaucoup été intéressé par le jugement qui s'est passé en juin dernier avec la Régie des rentes du Québec. Donc, même j'ai présenté ce jugement-là et tout l'historique de la poursuite, à vrai dire, à mon groupe fédéral, aux gestionnaires TI, à vrai dire, fédéraux du Québec, pour qu'ils comprennent bien les enjeux et, à vrai dire, ce qu'il faut en retirer. Et je dirais que du côté politique un peu, il y a eu beaucoup d'actions récemment au Canada, mais plus spécifiquement au Québec. Comme, par exemple, du côté fédéral, il y a eu à vrai dire, Charlie Angus, qui est un député au Nouveau Parti démocratique, qui a officiellement déposé une motion parlementaire pour favoriser l'évaluation et l'utilisation des logiciels libres au gouvernement fédéral. Donc ça, c'est une initiative, je pense, qui est très importante parce que c'est vraiment un député qui va mettre à l'avant pour proposer qu'il y ait des politiques libres qui soient encore plus poussées pour le fédéral.
Merci Gabriel. Donc une petite présentation du Canada par rapport au logiciel libre. Pour respecter la feuille de route, Sébastien, on va t'écouter un petit peu après la musique. Donc Mehdi, qu'est-ce qu'on va écouter tout de suite?
On va écouter le morceau intro de Hangman qui nous vient de...
C'est de la musique pour François, normalement vous devriez entendre
la musique de la musique de Powell.
C'est ça.
Ok.
vous êtes toujours sur CKIA FM 88.3 et vous écoutez La Voix du Libre.
Comme dirait l'animateur de Planète Afrique, le jeudi 17h.
Tu fais pas votre publicité pour ton émission.
Les bonnes choses ne durent jamais.
Donc là, on vient d'écouter une musique spécialement sélectionnée pour François. Quand je fais la sélection la fin de semaine, je pense tout le temps à toi, François. Je me dis, bon, je vais essayer de trouver quelque chose. Il y a une guitare un peu plus électrifiée que d'habitude.
Oui, j'ai pu lever mon index et mon auriculaire pour l'occasion.
Mehdi, on a toujours des auditeurs qui nous suivent sur le chat. Normalement, on doit avoir Lolotte 13, je pense.
Lolo qui est allé dormir parce qu'il est en France quand même.
Oh, moi, ça, c'est génial. Là.
Mais il nous reste quelqu'un de Montréal.
Ok. Donc, on va continuer sur notre thématique donc, de ce mois-ci, qui était donc, les initiatives gouvernementales. On s'intéresse un petit peu à ce qui se passe au Canada et aussi en France. Donc là, on a la chance d'avoir quelqu'un tout frais qui vient de France. Ah, ça fait 4 mois qu'il est ici.
Je suis pas encore perverti par le Québec.
Est-ce que la neige, ça va? Tu t'es habitué?
Oh, il n'y a pas grand-chose, mais il y en a plus chez mes parents en France en ce moment qu'ici.
Tu repartes alors. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la France et le lien qu'elle a avec les logiciels libres?
Alors au niveau de la France, bon, c'est un peu comme ce qu'on a dit pour le Canada, c'est pas facile d'avoir des chiffres. Il y a quand même eu, lors du Forum mondial du libre qui s'est déroulé à Paris fin septembre, le cabinet d'études Marx International qui a dévoilé une étude qui porte donc sur les logiciels libres dans les administrations françaises. Et le chiffre important finalement qu'il en a ressorti, c'est que 16% du budget informatique des administrations en France est dévolu aux logiciels libres. Donc, c'est déjà pas mal, finalement. Hein. Et sinon, au niveau activité en France, sur le site trouvetongul.info, qui répertorie les groupes d'utilisateurs de logiciels libres, on trouve 131 gules en France, ce qui me semble aussi assez impressionnant. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant.
Mais la France, il y a quand même beaucoup d'habitants, quand même.
Aussi.
Par rapport à ici.
Mais bon, je voyais un groupe par département, là, ça fait quand même un peu plus. En passant, j'ai vu que sur ce site, il y avait 12 groupes qui étaient répertoriés au Canada. Alors, je ne sais pas si ce site est aussi connu en France qu'au Canada. En tout cas, s'il y a des auditeurs québécois, canadiens qui nous entendent et qui ont un groupe d'utilisateurs de logiciels libres, ils peuvent aller donc sur le site trouvetongul.info pour répertorier leur gule à eux.
Mais sinon, en général, la France, le logiciel libre, c'est quand même un bon mariage, là. C'est quand même assez populaire.
Bah, ouais,
Dans les médias, est-ce que ça en parle beaucoup?
On en parle quand même de plus en plus. J'ai été aussi étonné ces derniers temps, lors des sorties des versions d'Ubuntu, de voir souvent un article fait à ce sujet sur le journal Le Monde, sur sa version électronique, et même la version papier. Le Monde, c'est quand même une référence. Bah, ils en parlent, quoi. C'est pas le petit joujou de l'informaticien qui va faire ça dans son garage. Non, c'est vraiment, il y a des journaux nationaux et même à renommée internationale qui vont parler de ça. Et, voilà, ça a une importance pour eux.
Puis de toute façon, je pense sur ces gros sites-là, il y a beaucoup de ces sites-là qui fonctionnent avec des CMS ou des logiciels open source, en tout cas derrière. Donc
certainement
c'est
aussi.
C'est quand même assez populaire. Est-ce qu'il y a une position officielle en France avec le libre? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi? Est-ce qu'il y a des mairies qui disent « nous, c'est logiciel libre, on ne veut rien entendre d'autre ?»
Alors, position officielle, c'est un gros mot. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a personne qui est contre. On ne va pas avoir un parti politique qui va nous dire « non, nous, le logiciel libre, ça ne marche pas, on ne roule pas pour ça.
Bah, » Peut-être qu'il y a quelques années, ils n'en parlaient pas, là, mais maintenant...
Voilà, disons que ce n'était pas connu, mais maintenant que c'est connu, qu'on aille de l'extrême gauche avec le Parti communiste ou jusqu'à l'extrême droite en France, tous les partis ont un avis sur le logiciel libre et sont d'une manière générale favorables. À côté de ça, on a Nathalie Kosciusko-Morizet qui était la secrétaire d'État à l'économie numérique jusqu'en novembre, jusqu'au dernier remaniement, qui elle a souvent parlé du libre, elle parle souvent du libre. C'est difficile pour le gouvernement de se dire oui, on est pour le libre, c'est parti, on y va. Ils sont pas contre. Ils poussent les gens à dire bah, « écoutez, si vous avez des idées, si vous avez des initiatives, allez-y, lancez-vous. » Mais c'est plutôt aux entreprises de faire le geste, de monter leur dossier et d'aller de l'avant. On a un peu l'exemple avec le grand emprunt qui s'est fait cette année ou l'année dernière, je crois. Et, grand emprunt national, il y avait une partie de ce grand emprunt qui était dévolue au numérique. Et donc là, c'est pareil, on a dit aux entreprises bah, « vous voulez en profiter, mais... » Allez-y, battez-vous, montez vos dossiers pour en profiter.
On parle d'un programme de subvention ou c'est...
Oui, c'est ça en fait. C'était un grand emprunt qui a été fait en France pour relancer l'économie, qui a touché des tas et des tas de secteurs, dont le numérique.
Tu avais un extrait que tu nous as apporté, c'est l'adjoint au maire de la ville de Paris.
C'est ça.
Ça s'est déroulé quoi, lors d'un événement qui parlait d'informatique ou de logiciel libre ?
Comme tout à l'heure au Forum mondial du logiciel libre, donc qui s'est déroulé à Paris justement fin septembre. Et donc c'est Jean-Louis Missica qui est adjoint au maire de Paris et qui nous parle de la vision du logiciel libre dans la ville de Paris.
On va écouter un court extrait.
En ce qui concerne l'open source, il faut se rendre compte que Paris et la région Île-de-France sont parmi les leaders mondiaux en matière de activité économique liée à ce type de développement logiciel. Et pour Paris et pour sa région, c'est un secteur d'activité d'une importance capitale parce que il génère de l'emploi, il génère des emplois à haute valeur ajoutée, il permet la création de start-up et il irrigue l'ensemble de l'économie numérique de la région et du pays. On considère que Paris est la capitale européenne de l'open source et nous voyons bien que dans certains secteurs, nous sommes dans une position de leader mondial. Donc d'un point de vue du développement économique, c'est fondamental pour Paris, mais ça va au-delà. L'open source, c'est, on le sait, c'est pas seulement un secteur industriel, une activité économique. Il y a aussi une dimension un peu philosophique derrière. Et cette dimension philosophique est en phase avec la philosophie de la ville de Paris. Et de ce point de vue-là, que ce soit sur le travail coopératif, toutes les stratégies collaboratives, le coworking, enfin toute cette terminologie qu'on utilise aujourd'hui pour caractériser des nouvelles façons de produire ensemble, eh bien là aussi la ville de Paris est concernée et essaye d'ailleurs d'appliquer à elle-même ce genre de choses.
Pas mal, un peu prétentieux le gars.
Un petit échantillon de chauviniste français là, hein, ou parisien.
On s'est dit c'est... au moins il va pas dire leader mondial, mais non, c'était, il l'a dit quand même. Donc non, mais à Paris ils sont quand même, il y a beaucoup d'événements, il y a des salons Linux, il y a beaucoup d'activités à Paris autour du logiciel libre. Je pense qu'ils s'y intéressent quand même, puis même si c'est pas une position officielle, ils veulent aller de l'avant.
Oui, c'est ça.
Tout à l'heure, tu vas nous en parler un petit peu, mais ils ont même développé ou contribué à des logiciels là pour...
Voilà, dont un CMS que la ville de Paris a développé. Et il y a aussi, au-dessus de Paris, la région Île-de-France qui, dans son ensemble, fait quand même des choses énormes pour le logiciel libre. On va en parler tout à l'heure.
Gabriel, toi, au Canada, est-ce qu'il y a une position officielle?
Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a une position officielle du Conseil du Trésor qui existe depuis 2003. Et d'ailleurs, cette position-là a été issue d'un rapport qui a été fait par Recherche et Développement de Défense Canada, ici à Valcartier, d'ailleurs, à Québec. Donc, cette position-là dit, à vrai dire, que les logiciels libres sont autorisés en autant qu'ils respectent les 13 principes du programme d'architecture fédéré, qui est un programme, à vrai dire, pour évaluer un logiciel, par exemple, pour dire, par exemple, que ce logiciel-là n'a pas une grande complexité d'intégration, qu'il respecte aussi, par exemple, la sécurité, la confidentialité, la protection de l'information, aussi qu'il y a un des principes qui dit qu'un logiciel doit utiliser des normes et des technologies éprouvées. Et également qu'il doit avoir un bon coût total de possession. Donc, c'est pas une approche qui oblige l'utilisation ou l'évaluation du libre. Néanmoins, ça dit que vous pouvez l'utiliser dans vos solutions. Chacun des ministères peut l'utiliser. Mais néanmoins, c'est pas une obligation. Par contre, vu que cette politique-là date de 2003, elle est actuellement en train d'être mise à jour par un comité de logiciel libre national à Ottawa. Et l'ébauche est actuellement en développement sur un wiki. Et à vrai dire, les grandes orientations qui sont proposées pour cette nouvelle mise à jour, c'est d'entre autres d'obliger d'évaluer de façon équitable les logiciels libres en tenant compte du cycle complet d'acquisition. Donc, ça va de l'achat jusqu'à l'arrêt de l'utilisation du logiciel et de la migration vers un autre système. Également, ça doit être de favoriser des standards et des formats ouverts tant que possible. Et finalement aussi, une autre recommandation qui va être faite dans cette mise à jour, c'est à vrai dire que les ministères ne doivent pas obliger les citoyens à acheter ou utiliser un système d'un vendeur spécifique. Donc ça, c'est encore en ébauche, ce que je vous dis. C'est en développement et en tant que tel, ça avance tranquillement. Mais tout de même, c'est ça. C'est pour arriver à une nouvelle position du fédéral mise à jour avec en 2010.
Ben merci pour ces précisions.
Est-ce qu'il y a des si on regarde province par province ou région par région, est-ce qu'il y a les leaders, est-ce que mettons est-ce que c'est l'Ontario, le Québec, l'Ouest
J'ai pas vraiment séparé les leaders, je dirais, en province, mais en ministère, je vais en parler plus tard, mais c'est vraiment principalement Environnement Canada et Ressources naturelles Canada qui, je dirais, mènent au niveau de leur contribution et de leur utilisation. Mais chaque ministère a quand même ses petits créneaux que vous allez entendre bientôt.
On va saluer Environnement Québec qui vient de publier un appel d'offres sur migration à Exchange 2007.
On va passer du blues. Je me suis fait plaisir ce soir, j'ai le droit aussi. Donc, c'est un groupe canadien.
C'était « They Want Me to Pay » de « The Two Green Cats », un groupe qui nous vient du Canada.
Donc, de retour dans les studios de CKUA pour l'émission « La Voix du Libre ».
T'as-tu pris un groupe parce que maintenant, tu es Canadien officiellement?
Je fais une émission sur le Canada, si je peux me permettre. Maintenant, ça fait une semaine que j'ai la double nationalité, donc je peux me permettre de choisir des groupes canadiens et d'inviter des Canadiens.
Un nouveau sujet de sa reine.
Effectivement. Deux questions. Donc une sur pour notre Canadien Gabriel. Donc à savoir, est-ce que le Canada, le fait qu'il soit proche des États-Unis, est-ce que ça change la donne? Est-ce qu'ils sont influencés directement par ce qui se passe aux États-Unis, par le mouvement?
Oui, moi je dirais que c'est un avantage parce que c'est sûr que les gestionnaires TI d'ici aiment avoir des exemples concrets d'implantation de libre et surtout lorsque c'est de leurs voisins, effectivement, je pense que c'est très bénéfique. Et entre autres, ben moi de notre côté, ce qu'on a trouvé comme exemple récemment, c'est le site usaspending.gov qui est à vrai dire un site où les États-Unis publient tous leurs contrats qui ont rapport au TI entre autres. Et si on fait une recherche rapide sur le site, du mot Linux, eh bien, on voit qu'en 2009, il y a eu 504 contrats totalisant 15 millions de dollars d'acquisition. Et en 2010, on voyait 420 contrats pour 30 millions de dollars. Et les plus grands acheteurs aux États-Unis, à vrai dire, c'est le département de l'aéronautique, de la défense et du commerce également. Donc ça, c'est des bons exemples à donner à nos gestionnaires pour dire qu'écoutez, les États-Unis, ils l'utilisent beaucoup à l'interne sans nécessairement le publiciser, le dire à tout le monde. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut voir sur ce site-là. Également, c'est certain que le site de Maison-Blanche qui s'est converti à Drupal, à vrai dire, a été un très bon exemple de données d'un CMS, d'un système de contenu web, à vrai dire, en logiciel libre. Et aussi le fait que la Maison-Blanche a contribué différents modules à Drupal, entre autres un module pour gérer leur courriel à l'interne. C'était un très bel exemple pour dire que oui, on peut utiliser du logiciel libre, mais on peut aussi en contribuer. Et finalement aussi, un autre bel exemple l'année passée, c'est un mémo qu'a sorti le département de la Défense, à vrai dire, qui recommande l'utilisation des logiciels libres, surtout au niveau de la sécurité, et qui en vante beaucoup les avantages. Donc, si la Défense américaine le dit publiquement, je pense que c'est quand même très, très fiable.
Sébastien, en France, par rapport à l'Europe, le fait que la France soit dans l'Europe, est-ce que dans l'Europe, c'est plus populaire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dites par rapport au logiciel libre qui pourraient influencer la France? Ou finalement, c'est la France qui influence les autres pays européens, puisque on l'a vu tout à l'heure dans la petite capsule.
C'est des leaders mondiaux quand même.
C'est des leaders mondiaux, donc ils sont le top quand même. Non, est-ce que tu as des informations à nous donner là-dessus?
Bah, disons que c'est vrai qu'en France, il y a pas mal de choses qui se passent finalement, et puis des choses un peu symboliques. On a parlé des députés français qui utilisent Ubuntu. À la dernière émission ici, vous avez parlé des gendarmes qui vont passer aussi sous Ubuntu. C'est quand même des exemples forts et qui ont une répercussion, c'est sûr, sur le reste de l'Union européenne. Après, ce qui se passe, nous, en Europe, c'est une union, il y a un parlement avec des députés élus pour le peuple. Finalement, nous, en tant que Français, ça nous donne un deuxième parlement pour avoir une chance de faire entendre nos idées. Et il y a par exemple des choses qui sont arrivées en France et dans les autres pays européens grâce au Parlement européen, comme par exemple le fait qu'un utilisateur de Windows, désormais, quand il démarre son système pour la première fois, devra choisir quel navigateur Internet il veut utiliser. Alors qu'avant, c'était Internet Explorer, le navigateur de Windows par défaut, et il y avait seulement celui-là. Désormais, on lui en propose plusieurs. Et il peut choisir soit Internet Explorer, soit ses concurrents, Firefox, Opera ou Google Chrome.
Donc ça, c'est l'Europe qui a statué, j'imagine, après Microsoft pour imposer justement.
Voilà, tout ça, c'est le Parlement européen qui a fait les démarches, qui a fait passer les lois, et c'est des lois qui s'appliquent ensuite dans chaque État européen.
On avait parlé aussi quand il y avait eu le rachat avec Oracle aussi. Donc il y a eu des injonctions, des choses comme ça pour faire changer un petit peu la donne. Ils n'ont pas une position en disant c'est le logiciel libre, mais peut-être qu'ils se font influencer peut-être par des partis ou par des groupes qui disent, bah là, essayez de faire quelque chose pour que ça n'arrive pas.
C'est quand même le plus gros bloc économique mondial, donc ça donne une certaine.
Tu vois qu'on a les meilleurs au monde quand même.
Sébastien, tu voulais nous parler aussi de la Free Software Foundation en Europe aussi.
Voilà, donc
ça, c'est quoi? C'est l'équivalent de la fondation que Richard Stallman.
Est-ce qu'on peut dire équivalent? Je ne pense pas que c'est équivalent. Disons que c'est une antenne pour l'Europe qui est basée à Berlin et donc qui permet d'agir plus localement. Bon, donc je parle quand même du niveau de l'Europe, mais n'empêche, voilà, c'est des gens qui sont à Berlin et qui peuvent agir sur nos élus ici et défendre le libre en Europe plutôt que ça soit des gens qui sont de la Free Software Foundation à Boston aux États-Unis.
Ok, intéressant.
L'Allemagne qui est peut-être l'autre pôle du logiciel libre en Europe là.
Du logiciel libre, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que.
De projets.
Ouais, c'est vrai.
En tout Open cas, Office, même.
C'est sûr que d'un point de vue économique, c'est en Europe, France et Allemagne, c'est un doublon qui est assez fort.
Gabriel, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On voudrait savoir maintenant, c'est quoi concrètement qu'au Canada, en tout cas d'après ton expérience puis ton réseau, c'est quoi l'utilisation du logiciel libre concrètement?
Bien, en réalité, il y a à la fois des utilisations de logiciel libre pour des sites externes, des sites publics, mais également des utilisations internes. Donc, côté site public, à vrai dire, il y avait une firme privée qui avait fait un petit recensement des sites web finissant par gc.ca. Et en janvier 2009, ils avaient trouvé que avec différents outils web, que sur 432 sites trouvés ayant gc.ca, il y avait au moins 172 sites qui utilisaient des logiciels libres. C'est presque la moitié quand même. Donc, c'était quand même assez... c'était une bonne nouvelle, du moins. Et là-dessus, bon, il y avait... la majorité était sur Linux, mais il y en avait certains sur FreeBSD et certains sur Solaris qui roulaient également le serveur web Apache. Donc, c'est juste pour vous donner un petit aperçu qu'il y a quand même à peu près la moitié des sites web publics qui utilisent au moins un serveur web libre.
Bah, ici, au provincial, on a de la chance aussi, on en a parlé plusieurs fois, mais avec le CMS Typo 3, c'est quand même assez populaire, là, ce qui se passe au provincial, puis ça continue de...
Oui, et de notre côté, moi, les initiatives que j'ai pu recenser au fédéral côté CMS, c'est au niveau surtout de Drupal. J'ai pu recenser au moins deux sites web publics qui utilisent Drupal. Entre autres, il y a un site de travaux publics et services gouvernementaux au Canada qui s'appelle achatsetventes.gc.ca. Donc, c'est un site d'approvisionnement pour les compagnies privées. Et donc, il a été développé en Drupal. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que il utilise un modèle qui implante le standard fédéral de normalisation des sites Internet. Donc, le « common look and feel » qu'on dit en anglais, c'est l'apparence commune de tous les sites web du fédéral. Donc, il y a eu un projet de logiciel libre qui avait été lancé par le fédéral pour créer un thème que je dirais pour Drupal. Donc, maintenant, les ministères peuvent utiliser Drupal avec ce thème-là très facilement. Et aussi, j'ai pu recenser certains blogs publics du gouvernement fédéral qui sont faits avec WordPress. Donc, entre autres, le blog de l'Office national du film qui utilise WordPress avec un thème du fédéral également. Mais si je pouvais vous donner plus d'exemples aussi, c'était, comme je vous disais, au niveau de Environnement Canada. Environnement Canada est un ministère très qui va beaucoup vers le libre pour ses différents projets scientifiques. Mais entre autres, son site de météo, donc le site qu'on connaît très bien, météo.gc.ca, est fait entièrement en logiciel libre. Donc, c'est un des deux sites les plus visités au gouvernement du Canada, avec le site d'emploi aussi. Les deux se compétitionnent, je dirais un peu. Et à vrai dire, on m'avait déjà dit l'année passée, qu'il y avait une moyenne de 80 000 accès par jour à ce site-là de météo. Et il roule, bien entendu, Linux, Apache, MySQL. Et je vous dirais un peu côté interne pour Environnement Canada, les différents logiciels qu'ils utilisent à l'interne un peu, c'est surtout au Centre météorologique canadien qui utilise une centaine de serveurs Linux pour faire leurs calculs scientifiques d'observation de la température, du climat, des prédictions atmosphériques. Et également, ce qui est aussi notable, c'est que à ce même centre météorologique-là, ils utilisent une centaine de postes clients Linux. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des scientifiques principalement, mais aussi des gens en TI et de d'autres sections qui utilisent Ubuntu pour travailler sur leurs postes clients. Et il y a d'autres sections aussi, comme le Centre de prévision des intempéries, qui utilisent Linux pour faire ses services critiques de prévision et d'avertissement météorologique. Et il y a une panoplie de logiciels libres aussi, comme pour la gestion des pourriels, la gestion des listes de diffusion, documenter des projets sur des wikis, la gestion de sources, la gestion de bugs. Donc, c'est tous des services que Environnement Canada utilise le libre pour effectuer.
Normalement, on serait censé passer de la musique, mais je suis tanné qu'on passe de la musique et qu'on coupe nos invités à toutes les presque 6 minutes. Donc, Mehdi, on va sauter celle-là, puis on va essayer de garder un peu plus de temps pour discuter avec nos invités. Donc là, on a parlé un petit peu du Canada. Sébastien, du côté de la France, l'utilisation du logiciel libre, on entend souvent des retombées ici, enfin des échos. Par exemple, on parle de la gendarmerie nationale. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? D'autres exemples qui seraient peut-être moins connus. Tout à l'heure, tu parlais des députés déjà qui avaient...
Oui, d'une manière générale, ouais, je vais commencer avec ça. Donc les députés de l'Assemblée nationale française qui, depuis 2007, utilisent Ubuntu sur deux postes informatiques qui leur sont fournis au début de leur mandat. À côté de ça, oui, on a parlé ces derniers temps beaucoup de la gendarmerie. Alors, l'histoire de la migration vers le libre de la gendarmerie, ça commence en 2005 avec le passage OpenOffice au détriment de la suite de Microsoft Office. L'année suivante, en 2006, c'est le passage à Firefox et Thunderbird. Et enfin, on en a parlé il y a peu de temps, donc l'annonce du passage progressivement de 2010 jusqu'à 2015 de tous les postes informatiques de la Gendarmerie nationale française sur le système libre Ubuntu. Donc c'est 85 000 postes pour 2 millions d'euros d'économies. À côté de ça, on a parlé aussi il y a quelque temps de la Direction générale des finances publiques. Donc c'est l'administration qui s'occupe de la gestion des finances publiques en France. Eux, ils sont passés 130 000 postes à Thunderbird aussi. Là, c'était pour des raisons de coûts et d'harmonisation. Disons qu'il y a deux administrations différentes qui ont fusionné. Et plutôt que d'avoir à jouer avec deux solutions différentes, on a pris une seule solution. Ça s'est retrouvé que c'était cette solution libre, Thunderbird. À côté de ça, il y a des choses moins connues, peut-être plus spécifiques. Par exemple, l'utilisation du logiciel Asterisk, donc qui gère de la téléphonie. Asterisk, par exemple, on le retrouve sur les autoroutes du sud de la France. Imaginez que vous arrivez au péage, vous avez un problème avec votre paiement, vous appuyez sur le petit bouton rouge pour avoir quelqu'un, vous saurez que sur les autoroutes du sud de la France, derrière, c'est du logiciel libre qui va gérer ça. Asterisk, il a été aussi installé aux ressources humaines, au bâtiment des ressources humaines de La Poste, donc au niveau national en France. Donc c'est pareil, c'est La Poste, c'est quand même une référence, et ils arrivent à faire confiance à un logiciel libre comme Asterisk et à la société qui est derrière. Enfin, on en a parlé un petit peu tout à l'heure de ce qui se passe en Île-de-France et puis à Paris. Donc Paris, la ville, et l'Île-de-France, la région qui englobe Paris, les départements alentours. Paris et l'Île-de-France, ils ont créé leur propre CMS qui s'appelle l'UTES. Il a été développé à l'origine par la ville de Paris pour permettre à chaque mairie d'arrondissement de Paris d'avoir son site. Donc on s'est dit plutôt que d'avoir à payer pour chaque mairie utiliser un système propriétaire, on va développer notre système, c'est ce qu'ils ont fait. Ça a bien marché, désormais il y a aussi la ville de Marseille qui l'utilise. Et comme au Canada on a parlé, le site de... c'était météo.gc.ca, c'est ça. Donc en France c'est le site de Météo France, c'est aussi l'agence nationale pour la météo, qui utilise aussi ce CMS LUTES. Donc qui utilise aussi du libre pour afficher la météo sur son site.
Et dans l'éducation, il y a des choses qui se font aussi dans les écoles, non ?
Oui, alors justement, pas mal en Île-de-France aussi. En France, il faut savoir que les régions, c'est elles qui sont chargées de gérer les lycées. Donc les lycées, c'est pour les élèves entre 15 et 18 ans.
C'est comme quoi ici, les cégeps ?
Les écoles secondaires,
ouais. Ouais, ça doit être ça. Donc, ils ont développé un espace numérique de travail. Donc, un espace numérique de travail, c'est une application qui permet de faire le lien entre élèves, professeurs et parents d'élèves. Ça permet de donner des agendas, de livrer des bulletins de notes, des tas de choses autour de tout ça. Ça s'appelle Lili, ça a été développé par la région Île-de-France, et donc ça, c'est libre aussi.
Merci à nos amis de La Voix du Libre. Vous l'aurez compris, cette émission mensuelle sur les logiciels libres diffusée donc tous les premiers mercredis du mois de 20h à 22h sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Et maintenant, place à l'agenda du libre, agendadulibre.org. Alors, le vendredi 17 décembre 2010, de 14h30 à 18h30, un atelier du libre par Montpel Libre. Donc, rendez-vous à la Maison pour tous Mélina Mercouri, 842 rue de la Vieille Poste à Montpellier. Les ateliers libres sont des ateliers pratiques sur le thème des logiciels libres. Le troisième vendredi de chaque mois, vous pourrez donc assister à des ateliers d'initiation aux logiciels libres et Linux sur plusieurs séances. Des thèmes comme la bureautique, Internet, PAO, Webmaster, Multimédia vous seront proposés cette fois-ci. Donc ce sera GIMP, le logiciel libre et gratuit de traitement d'images bitmap, dessin, retouche, animation, qui vous sera proposé donc ce vendredi 17 de 14h30 à 18h30 à la Maison pour tous Mélina Mercouri. Ce que l'on peut noter aussi, votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis de 16h à 18h à Téran. Avec la médiathèque de Téran, place du Ballon à Téran, Ce sont donc des ateliers d'initiation et de perfectionnement au logiciel libre et système d'exploitation libre GNU Linux, PAO, MAO, bureautique, traitement d'images, vidéo et montation. Donc vous aurez de 16h à 17h l'atelier OpenShot Video Editor. Allez-y, c'est très très bien comme éditeur vidéo non linéaire, superbe, libre en plus. 17h à 18h atelier Audacity. Voilà pour l'agenda du libre de cette semaine. Ensuite, ça va être assez calme puisque c'est la fin de l'année. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci de nous écouter sur les différentes radios ou en podcast aussi, on peut le faire. Merci de votre fidélité et puis restez libre. Terrorist Networks. Terrorist States.